Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. En deuxième partie d'émission, nous irons prendre des nouvelles de nos marcheurs Elsa et Ludovic Béguet. Je vous rappelle qu'ils parcourent les Pyrénées sur le JR10 afin de récolter des fonds en faveur du refuge Canal au Toit. Nous serons en ligne avec eux, enfin nous avons enregistré l'interview ce matin avant le départ de leur étape du jour où ils étaient sur le col d'Irati. Ils nous raconteront ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais dans un premier temps, le premier sujet, ça concerne un projet de loi autonomie et handicap qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. C'était juste avant le remaniement. Et l'association APF France Handicap donne son avis et surtout compte bien rentrer dans les discussions. Mais alors, que dit cette loi et que faut-il envisager, en plus ou en moins? Eh bien, c'est la réponse avec notre premier invité, Yvéric Desmoulins, qui est le directeur de l'APF France Handicap Lot et Tarn-et-Garonne. Bienvenue, vous êtes dans le mag du Lot. Bonjour Yvéric Desmoulins.
Oui, bonjour Monsieur Tirard.
Directeur donc territorial de l'APF France Handicap au niveau du Lot et du Tarn-et-Garonne. Vous communiquez sur ce projet de loi intitulé « D'aide sociale et autonomie » que l'Assemblée nationale vient de voter en première lecture. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi consiste ce projet de loi ?
C'est un projet de loi très ambitieux que le gouvernement a mis en chantier, sur lequel on a beaucoup d'espoir, l'association, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, parce que ça crée une nouvelle branche de l'aide sociale en France. Et cette aide sociale sur l'autonomie correspond à l'aide sociale qui est apportée pour financer, par exemple, nos frais médicaux, hein, la sécurité sociale. C'est du même ordre, c'est de cette même envergure. Donc, pour nous, ça a beaucoup d'importance que le gouvernement s'engage sur ce projet-là qui était annoncé par le gouvernement Macron dans son début de mandat. Et nous, on signale à la fois à tous ceux qui travaillent cette loi, les parlementaires, mais aussi à la société civile, des garde-fous, des attentions, des principes qu'il faudrait voir respecter dans cette dynamique-là pour correspondre aux besoins des populations que nous connaissons, qui sont les personnes âgées et personnes handicapées.
Mais je pensais qu'on était, en France, qu'on était quand même bien protégé par rapport à ça, par rapport au risque d'autonomie. Apparemment non, alors du coup.
On a une couverture, si, qui existe, mais les dispositifs, c'est un peu morcelé, c'est assez difficile de s'y retrouver. Par exemple, vous avez de l'aide à des personnes qui travaillent et qui vont avoir un accident dans le cadre du travail. Il y a une aide qui va être versée par la Sécu, on appelle ça une prestation d'invalidité. Vous pouvez avoir une aide d'un autre domaine pour trouver du travail, par exemple, avec un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Vous pouvez avoir des aides quand vous êtes handicapé et que vous payez quelqu'un à domicile via la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, vous savez, la journée de solidarité. Voilà, il y a plusieurs origines et l'ambition de cette politique d'aide sociale et autonomie, c'est de rassembler les éléments dans une seule dynamique et de pouvoir avoir quelque chose de plus coordonné, d'une justice sociale pour tous les citoyens coordonnés et qui prennent en compte ce risque de perte d'autonomie avec l'âge et avec le handicap.
Alors vous, à l'APF France Handicap, vous dites oui, c'est une bonne idée, oui, c'est très bien, ça va dans le bon sens, mais n'empêche, nous allons nous mêler au débat.
Oui, c'est notre rôle. On est toujours très avec une acuité forte pour pouvoir donner notre avis, donner l'avis aussi des personnes que nous représentons, qui sont plusieurs centaines de milliers hein, sur le territoire, et pour lesquels on a connaissance précise de leurs besoins. Donc, c'est important qu'on puisse faire valoir leur vision des choses aux personnes ou leurs difficultés. Et il y a quand même 35 millions de personnes concernées par cette dynamique. Hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, en France, qui sont souvent ignorés, invisibles. Donc nous, c'est notre rôle de faire valoir leurs droits qui sont régulièrement bafoués. Et ce socle qui est en train d'être construit, un socle inaliénable, hein, comme la sécurité sociale, il faut que le gouvernement réfléchisse à des dispositifs qui puissent vraiment garantir, par exemple, l'universalité de ce droit, comme la sécurité sociale est universelle. Ce droit, on le veut universel pour tous les citoyens, de la même manière, en respectant les droits, la dignité des personnes, en leur permettant un accès simplifié, accompagné, parce que c'est toujours difficile, vous savez, de faire valoir ses droits, même les droits à santé, hein, c'est difficile par exemple, en n'ayant aucun reste à charge, pour que l'entièreté de la prise en charge soit faite par l'État et non pas avec encore, vous avez quelque chose à payer, vous savez, quand vous avez les médicaments, il vous reste, ah oui, c'est pas pris en charge totalement. Oui, nous, on demande un financement 100% de solidarité nationale, avec des ressources nouvelles. Et donc, l'État réfléchisse à un fonds financier qui permettrait de doter cette dynamique.
Qui pourrait être financé comment?
Alors là, des ressources nouvelles, par exemple, hein, un recours à l'impôt, des contributions sociales, des dotations ministérielles, un concours des départements. On est dans la période d'imagination, de création, donc il faut surtout enlever aucun dispositif. On n'est pas très pour les dispositifs privés, hein, de financement de privé, puisque c'est une dynamique publique. Il faut éviter la mainmise du privé sur des dynamiques de cet ordre-là, et plutôt des financements publics qui vont servir pour le grand public.
Vous parlez aussi également d'une équité et d'une portabilité territoriale. Ça, c'est important parce qu'effectivement, selon l'endroit où on habite, on n'a pas tous comment dirais-je, le même accès aux soins et aux prestations.
Tout à fait. C'est l'exemple de la santé, hein, où il y a des déserts médicaux, où il y a de la difficulté pour trouver des prestations médicales par des spécialistes. C'est du même ordre pour l'autonomie. Il faut qu'il y ait un travail qui soit réalisé pour que l'accès à ces prestations de compensation d'autonomie soit ouvert à tous les publics, avec une gestion par guichet unique, par exemple, et une visibilité, une compréhension du système par tous les citoyens pour pouvoir le solliciter. Avoir recours à ces droits, si vous ne les connaissez pas, vous avez une perte de droits, vous ne pouvez pas les solliciter. Je pense par exemple au congé de paternité. La plupart des adultes connaissent ce droit, mais pas tout le monde. Alors la CAF communique par exemple, il y a des documentations, il y a des campagnes de communication aussi qui sont diffusées. Donc les personnes peuvent faire valoir le droit à ce congé de paternité par exemple. C'est du même ordre pour l'autonomie. Il faudra communiquer et créer des dispositifs qui puissent permettre que les gens connaissent leurs droits.
Yves-Éric Desmoulins, dans ces points-là, le huitième, vous avez décidé de mettre l'accent sur un organisme qui a été créé en 2005, la Caisse nationale solidarité et autonomie. Vous pensez que ça doit être là, que tout doit être centralisé?
C'est notre proposition, en effet. La Caisse de solidarité et d'autonomie, elle coordonne l'argent de cette journée de solidarité pour les personnes âgées, personnes handicapées. Et on a l'assurance, nous, que ce dispositif fonctionne bien. On y est membre, hein, on participe à des travaux régulièrement. Et il y a un organisme de gouvernance qui existe déjà. Pourquoi en créer un autre? Ça n'aurait pas de sens. Par contre, utiliser une dynamique qui fonctionne, ben voilà, pas besoin de réinventer des systèmes.
Ce projet de loi vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Du coup, est-ce que dans ce projet-là, ces points que vous citez sont inclus? Ou est-ce que vous souhaiteriez que ça change encore, qu'on y apporte des amendements, qu'on apporte encore des modifications?
Bien sûr, il y a encore des modifications à apporter. Bien sûr, il faut réfléchir et faire des propositions. Il est encore temps de réfléchir, oui, c'est ça. Les parlementaires sont en train de faire d'autres propositions, des amendements, on appelle ça. Et puis l'État va peut-être revoir sa copie sur certaines propositions. Bon, on est à une période de consultation, d'échange, et pour nous, c'est très important de donner notre message aux décideurs et ensuite voir l'application, puisqu'on sera aussi présent pour vérifier, pour être attentif.
Est-ce qu'ils ont eu votre message au gouvernement?
Bien sûr, oui, nous transmettons toujours nos publications, le communiqué de presse dont vous parlez, qui est paru en juin. Il a été envoyé à toutes les instances gouvernementales, parlementaires et autres.
Si tout va bien, ça serait une loi qui serait votée quand?
Alors, à partir du 15 septembre, il y aura un rapport parlementaire qui va être dévoilé. Bon. Je pense que à la rentrée, il y aura des précisions du gouvernement, du nouveau gouvernement, parce que semble-t-il va y avoir un remaniement. Mais la dynamique est lancée, elle ne peut pas s'arrêter maintenant. C'est ça qui est très très positif. On est favorable à la continuité de cette dynamique. Oui.
Bah écoutez, je dois vous avouer, Yves-Éric Desmoulins, qu'avec vous, les choses sont quand même beaucoup plus claires, parce que quand on prend connaissance de cette loi d'aide sociale et autonomie, c'est pas forcément évident à comprendre. Je pense que vous avez dû vous tirer les cheveux à essayer de comprendre le fonctionnement et de ce qui allait en advenir, non?
Le fonctionnement de la CNSA et de... Non, c'est quelque chose qui fonctionne déjà depuis la loi de 2005, donc on a connaissance de ce dispositif et c'est pas très très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de créer un nouveau dispositif et puis qu'il s'articule bien avec les autres. Voilà. Et là, c'est un enjeu majeur pour cette dynamique gouvernementale, oui.
Parce que la CNSA, c'est une caisse plutôt discrète, hein. Vous voyez, là, j'ai dû en entendre parler au moment de sa création, mais sans plus au final.
Alors, pour les gens qui travaillent dans le monde de la perte d'autonomie, non, ce n'est pas discret. La CNSA, par exemple, sur le Lot, nous avons créé un projet qui s'appelle un projet de service mandat PF, qui permet à des personnes en situation de handicap d'être des employeurs de leur personnel, de meilleurs employeurs, d'apprendre à le faire. Et nous accompagnons cette dynamique. On a créé ce projet grâce à une aide de la Caisse nationale de solidarité de 22 000 euros. Et ça nous a fait un coup de pouce, vous voyez, pour démarrer cette dynamique. Ils soutiennent aussi des initiatives pour plein de domaines, mais que vous ne voyez pas forcément systématiquement. Vous voyez, c'est vrai que c'est resté un petit peu discret, mais moi, je le perçois tout à fait. Puis les gens qui travaillent dans le domaine de la perte d'autonomie par l'âge et par le handicap le savent, hein. Oui, soyez rassurés.
Parce que pour bien comprendre, la CNSA, c'est elle qui récolte les fruits, si je peux dire, de cette fameuse journée de solidarité.
Tout à fait, oui.
D'accord.
L'argent
Bon.
va à la caisse et ensuite elle la redistribue conformément à la réglementation qui est prévue. Oui.
Et l'argent est bien distribué là où il faut?
En tout cas, oui, on vérifie que les besoins soient couverts et que les règles de distribution soient respectées. Oui.
Eh bien, écoutez, très bien, Yves-Éric Desmoulins, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cela quand la loi sera votée ou s'il y a des choses qui se passent, peut-être pas dans le bon sens ou dans le bon sens. En tout cas, vous nous
Oui.
tiendrez au courant.
Vous pouvez compter sur nous, bien sûr. Merci.
Merci Yves-Éric Desmoulins, directeur territorial Lot et Tarn-et-Garonne de l'APF France Handicap. Et puis dans quelques instants dans le mag, nous allons prendre des nouvelles de nos marcheurs Elsa et Ludo Béguet qui sont en train de parcourir les Pyrénées. En faveur du refuge Canin Lotois.
La fièvre m'emportait en pleine nuit, un soir d'été, comme si le temps voulait se venger, comme si le monde se relevait. Quand tu danses.
Les flagrants délires sur CFM Cahors dans le mag, les flagrants délires avec leur nouvel album, là c'est un extrait, ça s'appelle Quand tu danses. Il y avait plein de dates de concerts hein, pour cet été, notamment au 14 juillet à Cahors, pas mal d'annulations et ce n'est pas de leur faute bien évidemment, c'est dû à la situation actuelle. Alors si vous voulez savoir les dates qui sont pour l'instant, on dit bien pour l'instant maintenues, vous allez sur leur site flagrantdelire.info.
CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
Et dans la suite de votre magazine, eh bien, nous allons retrouver Elsa et Ludovic Béguet qui sont partis la semaine dernière pour un périple de presque 80 jours sur le fameux chemin de randonnée, le GR10, direction Banyuls. Et ceci afin de récolter des fonds pour un projet d'aménagement de terrain ombragé au refuge Cana Lotois. Alors ce matin, nous avons pris de leurs nouvelles. Il était 7h30, c'était juste avant leur départ de la journée, de leur étape du jour. Effectivement, c'est le moment de retrouver Elsa et Ludo Béguet qui sont en train de parcourir les Pyrénées, je vous le rappelle, hein, donc pour le refuge Cana Lotois, pour un projet. Là, ils sont partis, c'était fin juin, nous sommes le 8 juillet. Bonjour Elsa, bonjour Ludo.
Bonjour Yannick.
Vous êtes où ce matin ?
Eh bien, on est à Iratissiz, là, à côté d'un petit lac, là. C'est une retenue d'eau. Et on est à peu près 1500 mètres d'altitude et on a un petit 9 degrés là. Donc voilà.
D'accord. Donc un petit 9 degrés, ça veut dire. Oh, bon, c'est à peu près ce qu'il y a ce matin dans le Lot. Donc finalement, vous n'êtes pas mal loti.
Non, pas tant que ça, mais bon, sauf que en fait, la toile de tente est un peu moins épais que les murs de la maison.
Ouais, c'est vrai. Donc l'humidité se ressent un peu plus.
Ouais, on est en bonnet et gants quand même.
Ah oui, quand même, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière où l'on s'est eu ?
Ouh, beaucoup de choses. On a fait des grosses étapes. On était brûlés par le soleil sur le contournement de la Rune. La journée était très chaude. Mais c'était magnifique. Barney a pris un petit peu un coup de chaud, moi aussi d'ailleurs. Donc on s'est arrêté une bonne heure récupérer derrière une bergerie. Après, on a pris 2 jours de pluie, je crois. Donc malheureusement, ça a masqué tous les paysages. On avait la tête dans la brume souvent. Et les pieds mouillés, pas très agréable. Depuis, on a fait des journées absolument magnifiques sur le col de Ira. Le col de Irapata.
Ipala,
voilà. À couper le souffle.
Ouais, c'est une des plus jolies étapes là, qu'on a fait au niveau col d'Ipala, tout ça, là, c'était magnifique en fait.
Et mais j'ai l'impression que vous êtes en retard là, non, sur votre tracé?
Non, on a perdu un jour parce qu'on est obligé de s'arrêter pour se récupérer un peu là, parce qu'on a eu une grosse étape qui nous a un peu épuisé, quoi. Et notamment l'étape où on est passé par le col d'Ipala. Et donc le lendemain, on s'est reposé et puis finalement, on a réussi à rattraper notre retard, quoi. Donc là, on est là où on devait être, c'est-à-dire à Iratissiz. Et au lieu de faire notre jour de repos hier, on a continué à marcher, profiter bon. Du beau temps.
Comment ça se passe pour les toutous?
Bien, pour l'instant. Même après la grosse journée, on a marché pendant 12 heures pour arriver à Saint-Étienne-de-Bagory. Les chiens, bien, quoi. C'était juste le jour où il a fait trop chaud que c'était compliqué pour eux. Mais non, ils vont bien. Dès qu'on arrive, ils se posent et ils mangent et après ils dorment, ils récupèrent bien. Et le matin, alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Voilà,
et
on
alors,
est prêts.
Les chiens récupèrent bien, mais les propriétaires, est-ce qu'ils récupèrent bien eux?
Ouais, ça va à peu près. Ce
matin, c'est pas convaincant, hein.
On n'avait pas trop envie le matin, là. On est parti, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, ça va avec, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Des fois, surtout ce matin, on n'avait pas trop envie de sortir des duvets, mais c'était 6 heures, il fallait se lever.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine qui arrive, là, du coup? Est-ce que vous avez des changements? Est-ce que tout va se passer comme vous le voulez?
Pas vraiment, parce qu'en fait, ils annoncent de la pluie samedi et dimanche, ou que dimanche, en fait, plus orageuse. Et il faut qu'on monte au refuge Jandel. Il y a, je crois, il y a 1400 ou 1500 mètres de dénivelé à faire. Et s'il pleut, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, on est en train de voir si on ne peut pas changer une étape. C'est-à-dire, on avait prévu de passer une journée à visiter les gorges de Cascoleta. Non, de Cacueta. Je ne me rappelle plus. Et du coup, peut-être on ne va pas visiter ces gorges et on montera au refuge Jandel pour profiter du beau temps. Quoi. Donc voilà, peut-être les petits changements de la semaine.
Donc au final, c'est toujours un peu comme cela que ça arrive. Il faut savoir s'adapter parce que ben, la montagne et la météo, c'est toujours très différent.
C'est, hein. C'est capricieux. Hein.
Voilà.
Bon.
Et ben, ça se passe bien. On est tombé sur des randonneurs. On fait des belles rencontres aussi hein, sur la route. Hein. On a marché presque deux jours avec enfin, pas ensemble, mais pendant deux jours, on était à peu près les mêmes personnes. On bivouaquait au même endroit. Et puis, on a parlé de notre projet et il y a une personne qui a participé, qui a fait un don en passant par l'ITU, c'était sympa.
Et ben voilà, parce qu'on rappelle effectivement que c'est toujours dans le but de financer ce projet de terrain ombragé et herbé pour le refuge Canal au Toit et que sur la cagnotte Litchi, sous la rubrique Une marche pour les chiens, eh bien écoutez, vous pourrez effectivement participer. Ça se passe bien en fait le ravitaillement parce qu'on sait que, donc pour rappeler, vous faites livrer à certains endroits tous les jours le ravitaillement. Donc vous êtes très content quand le ravitaillement, avant que le ravitaillement arrive parce que votre sac est le plus léger, mais quand vous repartez, hein, évidemment, vous recommencez tout à zéro.
Non, c'est ça. On a récupéré le premier colis à Saint-Étienne et ce matin, on part au chalet d'Irati et deuxième colis nous attend là. Donc, on va repartir un peu plus chargé. Et c'est à peu près entre 4-5 jours qu'on récupère les colis.
Puis hier, comme c'était pas assez dur, on a trouvé une petite bergerie et on a acheté 500 grammes de fromage.
Ah ouais, d'accord. Ils sont malades. D'accord. Ils en veulent toujours plus.
On fait remarquer le circuit court.
C'est ça. Non, mais on disait que la gourmandise est un vilain défaut et que ça peut perdre. Mais là, c'est clair que de ce côté-là, ça... Bon. Merci beaucoup, Elsa et Ludo. On vous souhaite bon courage. Ouais, sens qu'au moment où on enregistre, vous allez repartir. Donc, ouais. Donc vous allez profiter un peu du soleil. Comment... Oui, hein, c'est...
Oui,
de cette journée. Quoi.
Ça va se lever, il va faire beau, là. Ça va aller bien.
Bon. Merci.
Je voulais dire une toute petite dernière chose.
Ouais.
Pour les gens qui ne voudraient pas participer par Alici parce que ça ne leur convient pas, ils n'adhèrent pas à ce genre de choses, ils peuvent aller directement au refuge Canel au Toit et déposer un chèque en disant que c'est pour la marche des animaux.
Eh bien d'accord, eh ben, c'est noté. Merci beaucoup Elsa et Ludo, grosse caresse au toutou et bonne route à vous.
Allez, merci. Mercredi prochain pour de nouvelles aventures.
Exactement. Et la cagnotte est en ligne donc sur litchi.com, rubrique Une marche pour les chiens. Elle s'élève déjà à 1460 €. Et je vous rappelle que le projet, c'est pour financer un endroit avec des arbres et de l'herbe pour les chiens du refuge Canin Lotois. Donc finalement, ça serait une bonne action. N'hésitez pas aussi à participer. C'est la fin de ce mag, les amis, que le temps passe vite. Rediffusion tout à l'heure à 17h et 21h30. Et puis surtout en podcast sur cfmradio.fr. Passez une excellente journée. Allez, l'écoute de CFM Radio.